Hugo le disait un jour, je cite, « J'aime les petits pays entourés de grands spectacles, un canton suisse, Guernsey. » Nous sommes dans l'un de ces petits pays au kilomètre 453 de notre périple sur l'une des boucles de la Seine entre Paris et Rouen, près de Jumièges, à l'abbaye de Saint-Vendry. C'est un petit pays, un petit royaume, et tout autour le spectacle de la Seine et de l'histoire de France mêlée, ce spectacle auquel nous l'avons vu, nous avons pris tant de plaisir en lisant les aventures d'Arsène Lupin. Et c'est vrai que jusqu'ici, l'histoire nous a été surtout une occasion de rêverie, puisque à ma génération, tout au moins, nous n'en avons guère connu les drames. Je vais donc, en manière d'excuse, faire revivre pour vous la mémoire d'un héros et d'un écrivain qui a vécu un temps dans cette abbaye et qui est assez peu connu du public français, mais comme dit Offenbach dans La Belle Hélène, n'anticipons pas. L'abbaye d'abord. Et je dois vous faire un aveu, je ne suis pas entièrement sensible à son air grand siècle. Et certes, ce que nous voyons là, Vincent Deck, le réalisateur, et moi, devant nous, est splendide. Un portail magnifique et une cour qui descend vers un ruisseau, un grand cloître classique sur la droite, des bâtiments imposants et une église abbatiale que les moines s'occupent à relever. L'argent leur vient de la bière et je recommande à vos prières et à votre portefeuille le frère Benoît, qui est mon ami et qui est le meilleur des hommes. L'argent leur vient aussi de la restauration de tableaux, qui est assurée par un grand spécialiste, le frère Pascal, qui est un homme charmant, qui montre volontiers les toiles d'André Masson sur lesquelles il travaille en ce moment, et l'on se réjouit de voir le surréalisme apparaître là où on ne l'attendrait pas. Mais quelle que soit la gentillesse, la vitalité de cette communauté de moines bénédictins, je dois m'avouer toujours désorienté par cette architecture somptueuse qui paraît prête à servir à tout. Un palais, un manège d'équitation, une caserne de chevaux légers ou une orangerie. Je dois avouer que je préfère le style lourd et sans charme des bâtiments de la réforme de Don Guéranger, ces bâtiments du XIXe siècle qu'on voit à Sainte-Anne de Kergonan par exemple et qui me semblent mieux correspondre à leur objet. Mais je suis d'ailleurs un peu injuste parce que le côté grand siècle relève de l'impression. Il y a tout à Saint-Vendry, dans le vallon de Fontenelle, au bord de la forêt de Bretonne. Il y a un portail du XVIIIe, il y a un cloître sublime dont je parlais et dont la galerie sud est du XIVe siècle. Et surtout, détail qui a enchanté notre ami Bagramko, qui a séjourné ici en 1938, une porte d'entrée dans l'abbaye surmontée d'un pélican symbolique et inattendu qui évoque le sacrifice du Christ. Les moines sont établis ici depuis 649 et les habitants du lieu appelaient cette vallée la vallée des saints. Ils y ont duré jusqu'à la Révolution. Au XIXe siècle, un marquis de Stackpool, un anglais, racheta l'abbaye et lui construisit un porche monumental. C'était l'époque où la religion pouvait être un bel élément de décor, un peu comme dans le génie du christianisme de Chateaubriand, et les Anglais s'en faisaient une spécialité, puisqu'ils allaient même jusqu'à louer dans leur parc les services de figurants spirituels qu'on appelait des ermites ornementaux. Au moment des lois anticléricales, l'abbaye devant laquelle nous sommes a été un moment la propriété de Maurice Maeterlinck, l'écrivain, qui passait ainsi de la vie des abeilles à la vie des abbayes. Il y vivait avec Georgette Leblanc, cantatrice et sœur de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Après 23 ans de vie commune avec Maeterlinck, Georgette Leblanc, cofondatrice d'un groupe saphique nommé L'Accordé, devait acheter le phare de Tancarville, non loin d'ici, pour y vivre avec sa compagne Margaret Anderson, ayant une pensée pour les premières de cordée. Lorsqu'il habitait dans le cloître, Maeterlinck se signalait par un comportement original. Il parcourait le dit cloître en patin à roulettes, en robe de chambre à ramages et le cigare au bec tiré par un attelage de quatre chiens. Il y a un dieu pour les maboules, ce qui est bien réconfortant. C'était l'un des charmes de cette époque d'ailleurs, juste avant les grands carnages. On ne se souvient malheureusement guère de la joyeuse bande des arts incohérents qui se réunissaient à Paris ces années-là et exposaient, au sens propre, n'importe quoi dans la galerie Vivienne. Ils donnaient, façon Maeterlinck, des bals costumés où l'on entrait en lisant des inscriptions magnifiques. La mélancolie n'entre pas ici, ou prière de ne pas cracher au plafond. Ils se sont dissous en proclamant la fin de l'incohérence à l'issue d'un de ces bals. À voir le point où nous en sommes, il est clair que cette annonce était largement prématurée, mais nous pouvons saluer Maeterlinck, saint patron des rollers et des glisseurs de notre monde. Mais si nous sommes venus ici, ça n'est pas seulement pour les moines, le frère Benoît, le frère Pascal, la bière, les tableaux, l'architecture du grand siècle et cette atmosphère de spiritualité, c'est pour un autre genre d'homme et un autre genre de livre que ceux de Maeterlinck. Et je voudrais vous dire un mot de Patrick Leigh Fermor. C'est le maître des écrivains voyageurs anglais, au point que Bruce Chatwin se fit enterrer près de lui à Cardamyle dans le Péloponnèse. Et sa vie aventureuse mérite à elle seule, comme on dit dans les guides, le voyage. La notice rédigée à l'occasion de son anoblissement en 2004 le présentait comme un mélange d'Indiana Jones, de James Bond et de Graham Greene. Âgé de 22 ans, renvoyé de plusieurs écoles, il entame en 1933 le périple à pied de Calais à Constantinople, d'où il tirera son chef-d'œuvre, le temps des offrandes. En 40, il s'engage et est affecté au service secret militaire. Parachuté en Crète occupée en 1942, il organise pendant 2 ans et demi les maquis anti-allemands de Lille, puis en 44, dans un exploit digne des canons de Navarone, et qui a d'ailleurs donné lieu à un film hollywoodien où son rôle est joué par Dirk Bogarde, il enlève le général Kreipe, commandant des forces allemandes en Crète, et après une incroyable course-poursuite dans la montagne, parvient à le ramener à Alexandrie. Après la guerre, il réside d'abord aux USA, et on lui doit le scénario du film de Houston, Les Racines du Ciel, tiré du roman de Gary, puis en France et en Grèce. C'est en 1951 que, travaillant sur un livre qu'il n'arrive pas du tout à achever, il se voit recommander l'abbaye de Saint-Vandrille. C'est un ancien héros, agnostique, légèrement dépressif, porté sur les femmes et la bouteille. Il s'y rend sans conviction pour y passer une semaine. Il y restera plusieurs mois, et le livre qu'il en a rapporté, Un temps pour se taire, A Time to Keep Silence, est l'un des plus beaux, des plus simples et des plus sensibles qu'on ait consacré à la vie des moines. Tout est là. La tristesse des débuts d'une retraite, l'angoisse qui monte, le désœuvrement, les questions qui naissent dans le silence, puis ce langage nouveau et familier qui prend corps dans la nuit de la méditation. Le passage de l'un à l'autre état, bien sûr, est rendu plus facile par les aménités de la vie, les rares conversations d'abord, et Lee Fermor en raconte quelques-unes qui font regretter d'être né trop tard pour avoir connu Saint-Vandrille en 1951, par exemple, celle qu'il a, lui, le héros de la guerre, avec un abbé allemand anti-nazi, réfugié à Saint-Vandrille depuis l'avant-guerre. Que se passe-t-il en nous lorsque nous expérimentons une vie radicalement différente de la nôtre? Un ébranlement de tout l'être, un voyage immobile, ici, sur les bords de la Seine. Aux amis du monde, disait saint Augustin, il n'est pire labeur que de demeurer sans labeur. Et j'ai souvent pensé, pendant ces mois de confinement que nous avons vécu, Lee Fermor, qui pourtant avait vécu d'autres drames, paraissait nous adresser à distance de temps comme un encouragement. Et si vous ne le connaissez pas déjà, vous devriez lire ce petit livre, Un temps pour se taire, qui se range au faible nombre de ceux qui sont profondément utiles à ce que les anciens appelaient la bonne vie. Il a été écrit ici, là où nous sommes, et au fond, il pensait maintenant me fait admettre que je me trompais au début de mon propos. L'esprit des lieux ne doit rien à l'architecture. On peut oublier l'architecture. Il doit tout à la concentration des songes et des espoirs, une génération après l'autre, et pour reprendre un des grands titres de Lee Fermor, Entre fleuve et forêt.